J'ai un petit problème technique, c'est que le machin qui fait avancer les PowerPoint ne marche pas maintenant. Alors, je dois me mettre là. C'est pas un problème, non? Comme ça, c'est bien. Vous pouvez m'entendre comme ça? Ça marche? Peut-être la quantité de son, ça marche? Peut-être la qualité de mon français, pas? Mais je vous demande de patience pour essayer comme ça. Jean-Claude et moi, nous voulons partager sur deux des prophètes mineurs parce qu'ils ont un message très, très important pour nous aujourd'hui. Ici, on voit quelques dates. La chute de Samarie, et puis après, la captivité de Jérusalem. En fait, il y a trois dates où Jérusalem est tombée devant ses ennemis. Au début, 606, et la dernière, troisième fois, quand la destruction c'était totale, c'était en 586. Alors, le prophète Jérémie a prophétisé que le peuple de Dieu devait avoir 70 ans de captivité en Babylone. C'était le punissement du Seigneur à eux pour son désobéissance. Et on peut voir que ces 70 ans, on peut le compter d'ici jusqu'à là, le premier retour du peuple, mais on peut le compter aussi d'ici jusqu'à le temps où le temple, le deuxième temple était fini. Donc dans ces dates-là, le temple de Salomon était détruit complètement. Et le peuple était aussi détruit. Les historiens disent que à peu près seulement 10% de la population a survécu. Les autres 90% étaient morts. C'est une punition très très forte du Seigneur envers eux. Mais alors, la fin de l'exil, on peut dire, c'est entre ces deux flèches. Et le Seigneur a parlé à son peuple pour des prophètes qu'on appelle majeurs et des prophètes qu'on appelle mineurs. Ce n'est pas parce que les uns c'était plus important que les autres, mais les choses qu'ils ont parlé dans la Bible, c'était plus long. Donc les prophètes mineurs ont des messages très importants. Mais ils ont parlé petit peu. Mais les prophètes majeurs ont parlé beaucoup des chapitres. Abdias, c'est le premier. Puis Joël. Puis Jonas. Amos. Osée. Puis Esaïe, prophète majeur, le plus cité dans le Nouveau Testament. Puis Michée. Nahum. Jonas, vous appelez, c'est le prophète qui a parlé à Ninive. Et le peuple de Ninive, ça a changé. Ils ont dit, Seigneur, tu as raison. Ils ont changé de cœur et le Seigneur leur a pardonné. Nahum, c'était aussi un prophète qui a parlé à Ninive. Après, bon, 120 ans après, mais dans ce cas-là, le peuple de Ninive ne veut pas se repentir. Donc, la prophétie d'Nahum, c'est une prophétie dure de destruction. Isophonie, Jérémie, dans le temps de la captivité du peuple à Babylone, Habacuc, Daniel, Il était à Babylonie comme captif, mais même il était une personne très importante là-bas. Ézéchiel aussi, loin de Jérusalem, mais Jérémie, c'était à Jérusalem. Et puis, entre ces deux flèches, quand le peuple commence à retourner encore à Jérusalem, on a Agé et Zacharie. Donc, ces deux prophètes mineurs, et puis le dernier, c'est Malachie, qui vient beaucoup après. Donc, le message d'Agé, de Zacharie, c'était pendant ces périodes-là, quand le peuple a retourné à Jérusalem, en faiblesse, parce que ce n'était pas nombreux, le peuple, et le Seigneur commence à agir entre eux. Et voilà, c'est les deux messages qu'on veut partager cet après-midi. Qu'est-ce que dit Agé au peuple? Qu'est-ce que dit Zacharie au peuple? Donc, le message d'Agé. On peut dire, pour donner un titre à ces courts livres, un travail difficile. Et ce que le prophète a partagé au peuple, c'était ça. Soyez forts et construisez la maison de Dieu. On dirait peut-être, bon, ça c'est un bel message pour ces gens-là, mais ça veut dire rien pour moi. Mais ce n'est pas du tout vrai. Bien sûr, le temple, la maison a changé. Dans ces temps-là, c'était une maison faite en pierre, construite à Jérusalem. Aujourd'hui, la maison de Dieu, ce n'est pas quelque chose construit en pierre, en bâton. Ce n'est pas une maison jolie, grande comme celui-là. C'est quelque chose de spirituel que le Seigneur bâtit avec des pierres vivantes. Et donc, le message que Dieu a parlé parmi Agé, c'est très important pour nous aujourd'hui aussi. La maison, c'est différent, mais c'est le même Dieu et le travail qu'il faut faire, c'est aussi difficile. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible en Agé, chapitre 1, et on va lire les premières 15 versets. Peut-être Jean-Claude, si tu peux m'aider.
Alors, Agé, chapitre 1er. La seconde année du roi Darius, au sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, disant: Ainsi parle l'Éternel des armées, disant: Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète, disant: Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vous vêtez, mais personne n'a chaud. Et celui qui travaille pour des gages travaille pour les mettre dans une bourse trouée. Ainsi dit l'Éternel des armées. Considérez bien vos voies. Montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous vous attendiez à beaucoup et voici ce n'a été que peu, et vous l'avez apporté à la maison et j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est dévastée et vous courez chacun à sa maison. C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son produit, et j'ai appelé une sécheresse sur la terre et sur les montagnes et sur le blé, et sur le moût et sur l'huile et sur ce que la sole rapporte, et sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Et Zorobabel, fils de Shealtiel, Et Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Adjé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple craignit l'Éternel. Et Adjé, le messager de l'Éternel, parla au peuple par le message de l'Éternel, disant « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, à la seconde année du roi Darius.
Merci beaucoup. Donc, un message donné, on voit trois personnes, on peut dire. Zorobabel, gouverneur, donc la puissance politique. Joshua, grand sacrificateur, donc la partie du prêtre, qui avait plus de contact avec Dieu. Et puis, il dit aussi le reste du peuple. Dans le verset 1, ça mentionne seulement Zorobabel et Joshua. Le verset 12, on voit le 3, Zorobabel et Joshua et tout le reste du peuple. Aussi verset 14, tous les trois. Et dans le chapitre 2, verset 2, parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Josadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, disant. Verset 4, on voit encore les trois. Zorobabel, Joshua, tout le peuple du pays. Chapitre 2, verset 21, encore les trois. Pardon, verset 21, c'est seulement Zorobabel. Et à la fin, verset 23, aussi Zorobabel. Mais le message de ces deux chapitres, donc, c'est pour les trois parties. Et je pense que ça nous parle à nous aussi. Le Seigneur, à nous, dans le Nouveau Testament, nous a fait un royaume de prêtres. Donc, on peut dire, on a des rapports avec Joshua. Le Seigneur nous a donné à beaucoup d'entre nous aussi des responsabilités pour gouverner. Par exemple, ceux qui sont mariés, comme des maris ou des parents, comme père, ils ont responsabilité envers Dieu par rapport à ma famille. Mon travail, c'est d'être professeur avec des élèves. Donc, c'est aussi un cadre où j'ai un peu la responsabilité de gouverner. Et peut-être quelqu'un ici dit, non, ça c'est pas de tout moi, les deux choses c'est pas moi. Et voilà le troisième, c'est pour tous qu'on est ici. Le message d'Agé, ça vaut pour tous. Et ça commence en disant, ils construisaient leur propre maison confortable en laissant la maison de Dieu en ruine. Qu'est-ce que fait ça? Cela les a conduits à la pauvreté, à l'insatisfaction, au désir inassouvi, à la froideur, à la sécheresse de cœur et au labeur improductif. Le Seigneur dit une chose, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, en disant, cherche votre cœur, n'est-ce pas que ça c'est votre situation? Et pourquoi? C'est parce que tout ton effort, votre effort, c'est pour les choses à vous, mais pas les choses à moi. Et c'est pour ça que vos vies ne marchent pas. Verset 5. Considérez bien vos voies. Et puis dans une autre traduction, il dit « considérez attentivement ». Et ces mots voix, On peut le traduire aussi vie. Je pense que c'est aussi dans le verset 7. Ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies, attentivement. Regardez ta propre vie. Et ça, c'est une parole pour chacun d'entre nous cet après-midi. Andrew, moi-même, regarde ma propre vie. Qu'est-ce que j'expérimente. Il y a peut-être quelques de ces choses-là qui c'est partie de ma vie. Qu'est-ce que fais-je de ma vie? Dans quelle voie ou chemin est-ce que je marche? Est-ce qu'il y a de ces choses-là, pauvreté, insatisfaction, toutes ces autres choses que je trouve dans ma propre vie aussi? Parfois on pense, bon ça c'est pour les incrédules, ça c'est un message de salvation pour les gens du monde. Mais regardez que ces deux chapitres, ce n'est pas pour les gentils, c'est pour le peuple de Dieu. Je pense qu'on peut appliquer ça à nous qui sommes des croyants. Parce que c'est possible d'être des croyants, mais vivre une vie qui n'est pas productive. On expérimente des vacuités, des froideurs et de toutes ces choses. Et le Seigneur nous dit, Andrew, réveille-toi. Considérez attentivement ta propre vie. Comment est-ce que ça marche? Et puis le verset 8, il y a plusieurs choses qu'il dit là-bas. Montez à la montagne et apportez du bois. On peut penser ça, c'est stratégie, préparation. On n'a pas encore construit quelque chose, mais on commence à tomber les arbres, à les faire propre, à mener le bois à Jérusalem. Même les pierres, les choses qu'on a besoin pour faire une construction. Et ça, je pense, le Seigneur nous demande de faire aussi. De nous préparer pour faire le travail pour le Seigneur. Et puis après, il dit, et baptiser la maison. Donc, la vraie construction commence. Et après, le Seigneur dit, et j'y prendrai plaisir. Le Seigneur nous invite à partager son plaisir. C'est pas que le Seigneur dit, Andrew, fais ça, ça, ça. C'est mauvais pour toi, mais c'est bien pour moi. Non. Quand le Seigneur nous fait l'invitation à travailler, c'est parce que quand on travaille pour lui, en baptisant l'Église du Seigneur, ce qui va durer par toute l'éternité, à jamais, c'est la manière la plus encourageante de vivre nos propres vies. Quand on dédique notre effort, notre ressource et toutes les autres choses à faire des autres choses pour nous seulement, ça donne de vitesse, de vide. On se sent avec faim, ça ne donne pas de satisfaction. C'est quelque chose court, mais le Seigneur veut partager son plaisir avec nous. Et la fin du verset dit, « Et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Et bien sûr, la gloire de Dieu, c'est le but final. Alors, verset 12. « Et Zorobabel, et aussi Joshua, et aussi tout le reste du peuple, écoute la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles d'Agé, parce qu'il n'était pas parole d'Agé, mais les paroles de Dieu parmi le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple craignent l'Éternel. Peut-être pour nous, cet après-midi, c'est aussi le moment d'attendre la voix de Dieu. Même parmi un groupe qui parle pas bien le français, mais pas écouter mes mots, écouter ce que Dieu veut dire parmi les faibles mots d'un coup, le mot du prophète âgé, et de réfléchir et de dire, oui Seigneur, tu as raison. Cette année, je n'ai pas vraiment utilisé ma vie pour faire des choses qui vont durer. J'invertis peut-être dans des choses du monde, pas des choses mauvaises, mais des choses qui ne vont pas rester. Le Seigneur nous dit, Andrew, réveille-toi. Invertissez bien ta vie. La vie, c'est courte. Il faut get the most out of your life. Tirer le mieux de ta vie. Le verset 13 dit, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui. Il ne nous dit pas, « Andrew, va-t-on faire des choses ?» Il dit, comme il avait dit aux disciples, « Venez avec moi, suis-moi, apprenez de moi, fais avec moi, partage mon... » Oh boy. Yugo, ces choses qui ont les bêtes.
Appelle mon joug, porte mon joug.
Porte mon joug.
Matthieu 11.
C'est pas le faire seul, c'est le faire avec le Seigneur. C'est Dieu leur dirigea et leur donna la force et puissance pour y travailler. Ça, c'était vrai dans ces cas-là. Et le Seigneur veut que c'est vrai aussi aujourd'hui pour nous. Et le verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit à tous les trois. Zorobabel, Joshua, le reste du peuple, ils sont venus à travailler à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Ce sera très bien. Si en sortant d'ici cet après-midi, dans une heure, quelque chose comme ça, le Seigneur dans le ciel pouvait dire, mon peuple était assemblé là-bas, en France, ils sont sortis avec le désir de travailler pour moi. En baptisant ma maison spirituelle ici sur la terre. Peut-être parmi mes enfants, mes petits-enfants. Peut-être parmi des amis à l'école, des copains à l'université. Des gens que je connais au travail, de semer la bonne semence du Seigneur pour aider à construire la maison de Dieu. Alors, le chapitre 2, versets 1 à 9, s'il te plaît, Jean-Claude.
Chapitre 2, versets 1 à 9. Au septième mois, le 21e jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Adjé, le prophète, disant, « Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, disant, « Qui est de reste parmi vous, qui a vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant? N'est-ce pas, n'est-elle pas comme rien à vos yeux? Mais maintenant, sois fort, Zorobabel. » dit l'Éternel. Sois fort, Joshua, fils de Josada, grand sacrificateur. Soyez fort, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortiez d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et la terre sèche, et j'ébranlerai toutes les nations, et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.
Merci. Alors, au verset 3, on voit cette question qui est posée. La maison ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Historiquement, c'était parce que le deuxième temple qu'on a bâti, c'était beaucoup plus petit, moins glorieux que le temple de Salomon, que les Babyloniens ont détruit. L'autre temple était plus grand, était recouvert complètement avec de l'or. C'était quelque chose de merveilleux. Et le deuxième temple, on le voyait plus petit, pas si glorieux. Les gens disaient, mais c'est pas quelque chose si grand. Ils étaient un peu découragés. Et parfois, c'est notre problème aussi. Peut-être on pense, bon, pour ces personnes-là, le Seigneur l'utilise pour faire des choses qui valent la peine. Mais ce que le Seigneur m'a donné à faire moi, c'est quelque chose de petit. Ça vaut rien. Ou peut-être on voit l'assemblée à je ne sais pas où, c'est grand, il y a beaucoup de gens, c'est encourageant ça. Et moi, j'y vais en petite assemblée où il y a un petit groupe, non? Et je me sens découragé. Et je pense, Seigneur, mais je le vois petit. Est-ce que ça vaut la peine de travailler? Qu'est-ce que dit le Seigneur? La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. Je deviens de plus en plus vieille. Maintenant, j'ai 4 enfants, 2 petits-enfants. Et j'ai la tentation, comme tous les vieux, de penser les jours avant, c'était mieux que les jours d'aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'entendais dire ça à mes parents et mes grands-parents, je disais, bof, pourquoi dire ça? Humainement, c'est une tentation pour nous d'être découragés, de faire des comparaisons qu'il ne faut pas faire. Le Seigneur dit, Andrew, fais pas ça. Je peux travailler dans ta vie, dans ta assemblée, dans le petit travail que je t'ai donné, pour faire des choses plus grandes, plus glorieuses de ce que tu as dans ta mémoire d'avant. Il ne faut pas vivre dans l'histoire, il faut vivre aujourd'hui en demandant au Seigneur, Seigneur, aide-moi à travailler pour toi avec foi, en pensant que même si le travail c'est petit, Seigneur, tu peux utiliser ça pour faire de grandes choses, pour te glorifier, pour te donner de joie que moi je peux partager aussi avec toi. Soyez fort et travaillez. C'est le mot du Seigneur pour chacun de nous aujourd'hui. Car je suis avec vous. Si le Seigneur est avec nous, on est déjà la majorité. On est déjà dans le côté le plus puissant. Ma parole est avec vous. Et chacun entre nous, on l'a. C'est la même parole de Dieu. Mon esprit demeure au milieu de vous. Et pour nous, dans le Nouveau Testament, on peut dire encore, l'esprit de Dieu demeure pas seulement au milieu de nous, mais dans nos cœurs. Donc, ne craignez pas. Et si vous êtes venu ici cet après-midi découragé, craignant le futur, le Seigneur dit, craignez pas. Je veux travailler avec toi pour faire de grandes choses pour moi. Le verset 6 jusqu'à 9 dit, j'ébranlerai toutes les nations et l'objet du désir de toutes les nations viendra. C'est des mots prophétiques qui parlent bien sûr sur le Seigneur Jésus lui-même, ce que toutes les nations désirent, mais n'arrivent pas à trouver. Ils cherchent de la paix, mais ils n'acceptent pas ce qui peut donner la paix. Le Seigneur Jésus est venu dans le temps quand les nations étaient ébranlées. Les Romains ont envahi Jérusalem, Juda, et politiquement, c'est un temps de renversement. Ce n'était pas du tout facile d'être juif dans ce temps-là, et c'est précisément là où Dieu a choisi pour que le Seigneur naisse parmi nous. Je remplirai cette maison de gloire. Et ça, c'est accompli avec le Seigneur quand il est allé dans ce temple-là. Hérode l'a fait plus grand, il a fait plus de bâtiments autour, mais le centre était le même. C'est le Seigneur. Le glorieux Fils de Dieu même qui est entré dans ce petit temple. Et pour nous, c'est le Seigneur même qui veut habiter dans cet temple. Mon corps, votre corps, dit l'apôtre. Est-ce que vous ne sachez pas que vos corps, c'est le temple de l'Esprit-Saint? C'est quelque chose de merveilleux. Et dans ce lieu, je donnerai la paix. Et ça s'est accompli quand le Seigneur est venu. Mais on connaît très bien que le prix que le Seigneur a payé pour la paix entre nous et Dieu, c'était terrible. Mais lui, il a tout payé. Et c'est pour ça que nous, cet après-midi, on peut avoir paix avec Dieu. On ne doit pas avoir culpabilité. On ne doit pas craigner le Seigneur comme un dur maître. On peut lui dire, Abba Père, pleine paix avec Dieu. Le Seigneur, quand il est venu, dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Car c'est lui qui est notre paix. En faisant la paix, il les réconcilia par la croix. Ça, c'est pour nous. Aussi pour nous comme des croyants. Parce que c'est possible d'être croyant, mais pas expérimenter ces paix. Vivre avec des anxiétés. Le Seigneur dit, Andrew, reçois ma paix. Je l'ai déjà acheté complètement. C'est gratuit pour toi. Donc, confie en moi. Chapitre 2, verset 10 jusqu'à 19. Une question un peu difficile, on va le lire, s'il te plaît, mon Claude.
Le verset 10, le 24e jour du 9e mois, dans la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint par Agiel, prophète, disant. Ainsi dit l'Éternel des armées, interroge les sacrificateurs sur la loi, disant, si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe, et qu'il touche avec le pan de sa robe du pain, ou quelque mets, ou du vin, ou de l'huile, ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché, sera-t-il sanctifié? Et les sacrificateurs répondirent et dirent non. Et Adjé dit, si un homme qui est impur par un corps mort touche quelqu'une de toutes ces choses, est-elle devenue impure? Et les sacrificateurs répondirent et dirent, elle est impure. Et Adjé répondit et dit, ainsi est ce peuple. Et ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et ainsi est toute l'œuvre de leurs mains, et ce qu'ils présentent là est impur. Et maintenant, considérez bien, je vous prie, ce qui va arriver dès ce jour et dorénavant, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, avant que ces jours fussent, si l'on venait à un tas de 20 boisseaux, il y en avait 10. Si l'on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il y en avait 20. Et je vous ai frappé par la brûlure et la rouille et la grêle dans toute l'œuvre de vos mains, et aucun de vous n'est revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez-le bien, je vous prie, dès ce jour et dorénavant, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le bien. La semence est-elle encore dans le grenier? Même la vigne, et le figuier, et le grenadier, et l'olivier n'ont pas porté de fruits. Dès ce jour-ci, je bénis.
Merci. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Le prophète a demandé au prêtre, comment est-ce que ça marche? Si Dieu apporte quelque chose qui est sale, qui est impur, et je le mélange avec une autre chose qui est pure, est-ce que la pureté de ça contamine, on peut dire, les choses qui sont sales pour le faire propre? Et le prêtre dit non, ça ne marche pas comme ça. C'est à l'inverse. S'il y a quelque chose qui est impur et on touche quelque chose qui est propre, on le fait sale. Ça, on le connaît aujourd'hui, bien sûr, avec la biologie, les médecins, tout ça, mais c'est quelque chose de très clair dans le livre de Moïse, avec les sacrifices et tout ça. Parce que le peuple d'Israël était eux-mêmes impurs et sales. Donc, tout ce qu'ils firent pour Dieu et lui offrirent était aussi impur, corrompu et sale. Ce mot d'avertissement, les gens étaient au point de commencer à faire la construction. Et le Seigneur dit, attention, il faut travailler pour moi, oui, mais il faut travailler avec un cœur pur. Pas avec de méchanceté, pas avec de contamination, pas avec des péchés cachés dans votre cœur. Ça, c'est bien sûr un mot pour nous aussi. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. C'est un mot d'avertissement pour nous qui partageons la parole en public. C'est peut-être possible de prêcher quelque chose bien dit, mais avec le cœur qui cache des péchés, des mauvaises attitudes, un cœur qui ne pardonne pas. Est-ce que le Seigneur peut bénir un ministère comme ça? Eh bien, dans la grâce du Seigneur, le Seigneur peut utiliser même un hypocrite pour partager une parole de Dieu et produire quelque chose de beau parce que c'est la parole de Dieu. Mais la personne qui fait ça, qui travaille pour le Seigneur comme ça, n'aura aucune récompense. N'expérimentera pas la joie du Seigneur en faisant ça non plus. Donc le Seigneur dit, attention Andrew, construis pour moi, mais fais-le avec un cœur pur. Et le verset 18 dit, le jour décisif a été quand ils ont mis en place la fondation du temple. Je pense que c'est une question pour nous. Quand ils ont obéi au Seigneur, alors les choses ont commencé à s'améliorer. Ce n'était pas en disant, je vais changer, je vais faire quelque chose pour le Seigneur, mais c'était quand on le fait. Les paroles ne sont pas chères. C'est faire les choses que le Seigneur voit. De ces jours-ci, je te bénirai. Question pour moi, question pour vous. Quelle pierre de fondation dois-tu placer dans ta vie pour aider à construire le temple du Seigneur? La réponse est différente pour chacun d'entre nous. Pour moi, peut-être le Seigneur me dit, un coup, je veux que tu fais ça. Pour Mariana, ma épouse, peut-être c'est l'autre chose. Il faut demander au Seigneur, quel est le travail que tu as pour moi? Il va nous montrer. Et quand on commence à obéir, quand on met cette pierre de fondation, on dit, c'est le premier pas. Donc, le Seigneur commence à bénir. Et le dernier verset du chapitre, s'il te plaît, Jean-Claude.
Verset 20. Et la parole de l'Éternel vint à Adjé pour la seconde fois, le 24e jour du mois, disant, parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, disant, j'ébranlerai les cieux et la terre, et je renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la puissance des royaumes des nations, et je renverserai les chars et ceux qui les montent, et les chevaux seront abattus, et ceux qui les montent, chacun par l'épée de son frère. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te mettrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées.
Dans un temps difficile, on parle du ciel, du trône, des choses, des royaumes, nations détruites, renverser les chars, soldats, chevaux et chevaliers, cavaliers. Et peut-être pour nous, dans ma vie, on est dans le temps difficile. Si c'est le cas, même comme avec Zerubbabel, le Seigneur nous parle, nous dit, un jour, la circonstance de ta vie ne sont pas du tout faciles, mais je t'ai choisi à toi. Le Seigneur a choisi ses disciples. Il nous a choisi aussi à chacun de nous. Ces paroles, c'était pour Zorobabel, en lui disant, tu deviens mon cachet ou sceau. Et qu'est-ce que c'est ça? En ce jour-là, je te prendrai, mon serviteur, je te mettrai comme un cachet ou sceau. Je comprends que c'est quelque chose un peu comme ça, qui permet, quand on écrit un document, on met du cire et puis le sort comme ça et ça donne autorité à ce document. L'autorité de ce qui prend le cachet. Et avec nous aujourd'hui, comme des disciples du Seigneur, le Seigneur nous donne aussi son autorité pour partager sa parole. Pour communiquer aux autres la bonne nouvelle, pour construire la maison de Dieu ici dans la terre. Ce n'est pas notre autorité, c'est l'autorité de Dieu qui nous donne pour faire ça. On peut dire aussi que c'est une image qui nous montre que nous sommes en sécurité dans ses mains. C'est un anneau que j'ai ici. Peut-être un voleur peut l'en sortir. Quand on habitait en Colombie, un voleur a quitté l'anneau de mes épouses avec un couteau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être ça va m'arriver avec ça, peut-être. Mais si ça c'est la main de Dieu, et moi je suis cet anneau, qui peut m'enlever de la main de Dieu? Personne. Et le Seigneur nous dit, Andrew, Zorobabel, tu es sécure, en sécurité dans mes mains. Et ça nous appelle aussi, bon, la garantie, l'Esprit Saint qui habite dans nos vies. Je t'ai choisi, dit l'Éternel, c'est à nous aussi. Nous aussi sommes choisis par Dieu pour être près de lui et pour produire du fruit. Pour bâtir la maison de Dieu pour lui. Alors, en conclusion, 5 questions. D'abord, avez-vous reçu le désiré de toutes les nations, Jésus, dans votre vie pour vous pardonner et sauver, pour transformer totalement votre vie? Comment est-ce que Dieu m'appelle une réflexion approfondie sur ma vie et la façon dont j'utilise mon temps, mon énergie et mes ressources. En les utilisant pas pour moi, mais pour construire la maison future, quelque chose qui va durer. Quelle façon puis-je aider à construire le temple de Dieu sur la terre aujourd'hui? Suis-je un participant actif à l'édification de l'Église? Ou peut-être un observateur passif qui critique le travail des autres? Ça peut nous arriver aussi. Quatrièmement, est-ce que ma vie et mon service pour Dieu sont contaminés par des péchés cachés, des rancœurs, des conflits non résolus, des addictions coupables? Si c'est peut-être le cas, aujourd'hui c'est le jour de confesser ces choses au Seigneur, de s'apparter de ça, pour pouvoir travailler d'aujourd'hui en avant, en pureté, consacré à lui. Et dernièrement, quelle est la première pierre de fondation que Dieu me demande de poser aujourd'hui? Quel est le premier pas d'obéissance que je dois faire cette semaine? Très pratique. Pas quelque chose pour instruire notre tête, mais quelque chose pour dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je dois faire X. C'est différent pour moi que pour vous. Mais il faut le dire au Seigneur. Il faut lui demander de la puissance pour le faire. Pour prendre courage, pour laisser la peur et faire ces choses que le Seigneur nous demande de faire pour lui. Nous, nous sommes faibles, même comme le peuple dans ce temps-là. Mais nous avons le même Seigneur très puissant qui veut travailler avec nous.